Tout de suite, on lance notre grand débat sur l'actualité du moment, puisque les premiers médicaments contre le Covid devraient arriver très bientôt. D'où notre question du jour. En quoi avez-vous le plus confiance pour lutter contre le Covid? Les vaccins, les médicaments, ni l'un ni l'autre, ou les deux? Continuez de réagir sur notre compte Twitter Sud Radio ou à notre standard 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, nos invités, Stéphane Gaillet, médecin, infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg, et Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Europe et président de l'Institut Santé. Bonjour à vous deux.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour débattre ce matin sur Sud Radio avec nos auditeurs 0826 300 300. Déjà, professeur Stéphane Gaillet, quand on dit que l'arrivée de ces traitements, mais cette arrivée est imminente, a priori, c'est pourquoi et globalement, de combien de médicaments parlons-nous ici ?
On parle de 4 à 5 médicaments, bon, c'est encore un peu imprécis, mais l'essentiel, c'est que des médicaments oraux arrivent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous les réclamons depuis longtemps. Mmh. Parce que la politique du tout vaccin a ses limites, et nous les voyons actuellement avec le variant Delta, qui répond mal à la vaccination telle qu'elle est administrée actuellement avec les vaccins, enfin les avec les
notamment sur la question de l'immunité génétique collective qui est remise en question par le fait que les vaccins actuels n'empêchent pas finalement la propagation de ce virus. Elle la limite en partie, mais pas suffisamment, c'est ça?
En effet, les vaccins génétiques actuels, c'est-à-dire à ARN messager et à ADN à vecteur viral, n'empêchent pas de s'infecter, c'est-à-dire que vacciné ou non vacciné, on peut s'infecter, faire la maladie sous forme peu apparente ou apparente, et par ailleurs, lorsque l'on est vacciné, on est également contagieux, c'est-à-dire que la vaccination ne rend pas moins contagieux. Et on voit qu'il y a là quelque chose qui est en désaccord avec les annonces. Parce que la vaccination a été annoncée comme un moyen de freiner l'épidémie. Or, si les gens vaccinés sont autant contagieux que les gens non vaccinés, ça ne freine pas l'épidémie.
C'est pas ce que dit le gouvernement. Donc, en tout cas, il dit que ça réduit en partie les contaminations. Ça, on a des études qui le prouvent ou pas ?
Il y a beaucoup d'études et elles sont discordantes. C'est le problème que nous avons avec cette pandémie Covid-19, c'est-à-dire que nous avons un foisonnement d'études, d'informations, et il y a des études discordantes, et on se rend compte souvent que les études qui vont dans le sens de la doxa, c'est-à-dire de la notion générale selon laquelle c'est la vaccination qu'il faut promouvoir et qu'il faut généraliser, il y a souvent des conflits d'intérêts chez les auteurs.
Le tout vaccin, quoi. Ouais.
Oui.
On va y revenir sur cette question des conflits d'intérêts, si vous le voulez bien. Frédéric Bizard, déjà, je rappelle que vous êtes, vous, président de l'Institut de Santé, professeur d'économie à l'ESCP Europe. Est-ce qu'il y a déjà des raisons économiques qui peuvent expliquer que ces traitements contre la Covid n'arrivent qu'après les vaccins? Il y a des explications économiques à cela?
Non, je crois qu'il faut un petit peu revenir à des questions scientifiques et stratégiques. D'abord, je rappelle qu'on est face à un risque avec des stratégies qui sont différentes d'un pays à l'autre pour gérer ce risque. Vous avez des pays qui sont sur ce qu'on appelle sur la stratégie zéro Covid, c'est-à-dire qui considèrent que c'est par le confinement, par empêcher les gens d'entrer en contact les uns avec les autres, qu'on va régler cette situation-là. C'est le cas dans un certain nombre de pays d'Asie, d'Océanie, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, donc qui font un peu fi à la fois de la stratégie vaccinale et de la thérapeutique et qui se concentrent sur la stratégie zéro Covid. Certains pensent qu'on devrait l'appliquer en Europe, mais c'est malheureusement, ou en tout cas, c'est inapplicable.
Bon, on a vu déjà en Nouvelle-Zélande, ça n'a pas marché.
Comment ? Non, mais oui, parce que c'est quasiment c'est inapplicable dans un continent comme le continent européen.
Et encore plus en Europe, oui, bien sûr.
Après, vous rentrez dans une autre stratégie, ce qu'on appelle la stratégie d'atténuation, où vous essayez de faire en sorte que vous ne pouvez pas empêcher les contaminations, les infections de se développer, mais vous faites en sorte que vous avez le moins de conséquences sanitaires et économiques possibles lorsque vous avez des gens qui sont infectés. Je suis désolé de vous dire que la stratégie vaccinale par rapport à cette stratégie-là, et de loin, la meilleure stratégie sur un plan sanitaire et sur un plan économique. Il n'y a pas photo, mais c'est une stratégie qui est insuffisante.
C'est-à-dire donc, que c'était la meilleure avant d'avoir ces traitements-là, si je me souviens.
Allez, laissez-moi juste aller au bout, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, allez-y.
Elle est insuffisante. Il n'y a pas de doute qu'elle est insuffisante parce qu'elle n'empêche pas à 100% les contaminations et elle n'empêche pas à 100% le développement de cas graves. Donc on arrive là sur une approche thérapeutique, mais qui existe depuis le début de l'infection. Depuis le début de l'infection, on n'est pas démuni de moyens. Hein, vous sûr. Avez d'ailleurs de vieux produits quelquefois comme la dexamétasone qui limite l'inflammation, mais qui ne sont pas aussi suffisants. Donc grâce à la science, je pense qu'il faut se réjouir qu'on va avoir, d'après la commissaire européenne, trois nouveaux médicaments à partir d'octobre, qui sont principalement des anticorps monoclonaux, donc ils vont renforcer l'arsenal thérapeutique pour réduire le risque de mortalité.
Justement, alors il y a aussi l'OMS qui, pour le coup, a déjà recommandé, a déjà validé trois traitements. Alors vous avez parlé notamment de la dexamétasone, voilà, notamment. Professeur Stéphane Gaillet, c'est-à-dire qu'il y a déjà des traitements qui sont mis en place. On a finalement progressé aussi dans les soins justement apportés sur ces personnes qui arrivaient à l'hôpital. On en parlait à l'instant justement sur ces questions des anticorps monoclonaux, c'est quoi ça qu'on puisse expliquer aux auditeurs? Parce qu'on n'est pas tous spécialistes sur la question, bien sûr.
Il faut distinguer deux types de traitements. Il y a des traitements qui sont dits à visée étiologique. Bon, c'est un terme un peu savant. Ça veut dire qu'ils vont cibler la cause de la maladie. En l'occurrence, le virus, l'infection virale, ainsi que les bactéries qui infectent en même temps que le virus, des bactéries d'accompagnement comme le mycoplasme. Et puis, il y a des traitements qui sont dits symptomatiques, c'est-à-dire qui ne ciblent pas la cause de la maladie, mais ses conséquences. Et dans ces traitements, on va trouver la dexamétasone qui vient d'être citée, qui est un corticoïde, un puissant anti-inflammatoire, puisqu'il y a des phénomènes inflammatoires très puissants et qui font la gravité, justement, et des formes sévères de la COVID. Et puis, par ailleurs, il y a également, parmi les traitements symptomatiques, des antithrombotiques, des anticoagulants, c'est-à-dire des médicaments qui vont s'opposer aux thromboses, puisque c'est une des complications essentielles de la COVID, c'est-à-dire la formation de thrombus, de caillots, si vous préférez, qui se forment dans les petits vaisseaux et dans les moyens vaisseaux, et qui entraînent parfois la mort. Voilà.
Stéphane Gaillet, je rappelle, vous êtes médecin infectiologue et hygiénique au CHU de Strasbourg. Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ECP Europe, président également de l'Institut Santé. Vous restez avec nous, on poursuit ce débat dans un instant sur Sud Radio. Le temps de rappeler notre question du jour. En quoi avez-vous le plus confiance pour lutter contre le Covid-19? Les vaccins, les médicaments qui arrivent bientôt? Ni l'un ni l'autre ou les deux, vous continuez de voter sur Twitter, sur Facebook. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin, était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h19. Vous êtes bien dans le grand débat sur Sud Radio et justement, on continue de débattre autour de notre question du jour. En quoi avez-vous le plus confiance pour lutter contre le Covid, les vaccins, les médicaments, ni l'un ni l'autre ou les deux? Nos invités, je vous le rappelle, Stéphane Gaillet, médecin infectiologue et hygiénique au CHU de Strasbourg, et Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Europe et président de l'Institut de Santé. Et
Frédéric Bizard, est-ce qu'on a une idée déjà du coût de ces médicaments contre le Covid qui vont entrer sur le marché?
Oui, on a une idée. Oui, ce sont des médicaments qui sont relativement coûteux, en tout cas pour les anticorps monoclonaux, puisqu'on est à peu près à 2000 euros l'injection contre une vingtaine d'euros pour un vaccin. Ouais. Mais je crois, je vais revenir sur l'impact économique, mais avant, juste un point, puisque vous avez fait un sondage. Vous faites un sondage, et donc pour construire un jugement un petit peu sur le plan individuel, il faut aussi avoir une approche collective. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ce virus. Vous avez des gens qui sont profondément ce qu'on appelle immunodéprimés, soit parce qu'ils prennent des traitements lourds, par exemple contre les cancers, soit parce qu'ils ont beaucoup de comorbidités, ils sont âgés. Ceux-là, on n'arrive pas à générer par eux-mêmes les anticorps qui permettent de les protéger, même avec les vaccins. Oui. Donc ceux-là ont besoin que vous leur apportiez des anticorps par des médicaments, des biomédicaments sur le chose. Bon. Et donc,
c'est ce que vous expliquiez, c'est de coupler les deux et effectivement que les deux ont importance.
Donc, si vous voulez, moi, si vous me proposez de prendre un anticorps monoclonal, je vais vous dire que ça ne m'intéresse pas parce que je considère que je suis suffisamment bien portant. Mmh. Mais c'est profondément individuel comme approche, bien sûr. Si vous voulez. Donc, entre le pour et le contre, il faut quand même prendre en compte les états très différents de santé des individus. Mmh. Sur le plan économique, il y a une question qui se pose, c'est le bon ciblage de tous ces médicaments. Puisqu'on est sur des médicaments qui sont 100 fois plus coûteux que les vaccins, se pose la question de la soutenabilité financière de généraliser ces médicaments, tout du moins de les faire prendre à une partie très importante de la population. Donc là, et ça c'est une question qui est médicale, mais qui est aussi médico-économique. Parce que si vous prenez 2000 euros par rapport à la vie d'une personne, évidemment vous vous apercevez que c'est extrêmement rentable d'administrer ces médicaments. Mais si vous prescrivez ces médicaments à des personnes qui ne sont pas réellement en danger, là se pose la question de ce qu'on appelle le rapport coût-bénéfice de ces médicaments. Il ne faut pas oublier que c'est la sécurité sociale qui finance tout ça, que la sécurité sociale est dans un état financier extrêmement dégradé. Donc je pense que le ciblage de ces médicaments est une question importante.
Est-ce que le fait, Frédéric Bizin, qu'on ait l'arrivée sur le marché de plusieurs médicaments, 4 ou 5 là, d'ici l'automne, est-ce que ça va faire en sorte d'avoir une forme de concurrence qui va plutôt faire baisser ces tarifs? On a vu que pour les vaccins, finalement, pas trop, j'ai l'impression. Est-ce que là, on peut compter là-dessus ou pas?
Oui, votre question est tout à fait pertinente parce qu'on a vu qu'avec les vaccins, en général, lorsque le meilleur moyen pour faire baisser les prix des médicaments, c'est de générer de la concurrence. Ah oui. Et quand vous êtes dans une situation de monopole, les États sont assez démunis de moyens de négociation. Donc, vous avez raison d'aborder ce point. Il faut éviter aussi un effet de précipitation parce que là, on a les États qui sont sous la pression de l'opinion publique et vous avez des politiques qui sont souvent un petit peu qui confondent vitesse et précipitation et qui sont à tout pour montrer qu'ils ont donné tous les moyens à leur population de se faire. Donc je pense qu'en effet, il y a des négociations sur les tarifs à avoir et ne pas, quoi qu'il en coûte, mettre sur le marché des médicaments et penser à négocier, notamment par la concurrence, c'est le tarif de ces médicaments. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit souvent, la Commission européenne s'est déjà engagée à acheter des milliers de doses de ces médicaments. Voilà, je pense qu'il doit y avoir une négociation. C'est de l'argent public et une négociation doit avoir lieu.
Frédéric Bizard, Stéphane Gaillet, on a un auditeur qui nous appelle au standard. C'est Franck qui nous appelle de Paris.
Oui, bonjour Franck. Vous voulez réagir sur le sujet. Franck. On vous écoute. Bienvenue.
Oui, bonjour. Je voulais réagir parce que moi, je me pose des questions au sujet de ces médicaments alternatifs. À chaque fois que j'ai posé la question sur ce sujet, sur des gens qui se prétendent avertis, en tout cas, ils me disent mais les études, toutes les études, c'est toujours ce qu'on vous dit, toutes les études démontre que ces médicaments sont totalement inefficaces et que le seul produit efficace contre le virus, c'est le vaccin. Et j'avoue que moi, j'ai du mal à répondre à ces gens-là, même si j'ai une conviction. Ma conviction, c'est de dire, faut tout essayer, d'accord.
C'est ce que disait Franck Frédéric Bizard à l'instant sur le fait que faut coupler aussi à la fois les médicaments, les vaccins, selon chacun aussi, nécessité de chacun, parce que chacun, on est différent. On parlait notamment des immunodéprimés pour qui les vaccins sont moins efficaces justement pour ces anticorps. C'est-à-dire que vous êtes plutôt favorable justement à ce qu'on puisse allier les deux pour lutter contre le Covid. C'est ça l'idée? Si je vous suis bien.
Évidemment, allier les deux. Mais la question que je me pose, c'est quand on vous dit ça, on vous dit mais non, c'est totalement inefficace. C'est totalement inefficace, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors quand vous dites, regardez, il y a quand même des études en Israël, ils sont en train de découvrir que des vertus de certains médicaments, même l'ivermectine, il me semble. Et on vous dit, mais non, c'est fadaise, la seule voie médicamenteuse, entre guillemets, même si un vaccin, c'est pas un médicament, c'est le vaccin. Et finalement, on est désarmé face à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre?
Alors, il y a déjà, vous parlez de l'ivermectine. Là, il y a justement, pour le coup, c'est les autorités sanitaires américaines qui demandent justement à ne pas utiliser ce médicament. Oui. Bah justement, on va poser la question à Stéphane Gaillet, médecin infectiologue, qui est avec nous. Stéphane Gaillet, sur ce que disait à l'instant notre auditeur Franck, deux choses déjà. Est-ce que ces médicaments, ils peuvent être efficaces? Jusqu'à quel point? Pour quel type de personnes? Puisque ça aussi, c'est important. Et puis, peut-être aussi répondre sur cette question du médicament de l'ivermectine aussi, qui fait beaucoup réagir. On a beaucoup de questions là-dessus aussi sur les réseaux sociaux.
Les anticorps monoclonaux ont forcément une efficacité, sans quoi on n'en parlerait pas et on ne se préparerait pas à les commercialiser. Mais ce sont ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques d'un antigène, généralement la protéine S, la protéine Spike, ouais. Et il risque de ne plus être efficace s'il y a de nouveaux variants qui apparaissent. Et ça, c'est à la différence des thérapies non ciblées, justement. Et c'est le cas de l'ivermectine. Ouais. Alors aujourd'hui, l'ivermectine, qui au départ est un antiparasitaire, l'ivermectine se voit confirmée dans son efficacité vis-à-vis et du SARS-CoV-2, et c'est actuellement le médicament commercialisé le plus efficace dont on dispose. Et dans ce que l'on appelle le TAP, le traitement ambulatoire précoce, que prescrivent de nombreux généralistes devant les tout premiers signes de la COVID-19, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait des signes de sévérité, eh bien, les généralistes associent généralement l'ivermectine à l'azithromycine, ainsi qu'au zinc et à la vitamine D. Et avec ce TAP, ce traitement ambulatoire précoce, ils évitent ainsi beaucoup d'hospitalisations, beaucoup d'aggravations.
Mais alors, avec beaucoup d'effets secondaires quand même.
Justement non. L'ivermectine, contrairement à ce qu'on peut lire parfois ou entendre, c'est un produit très bien toléré, à condition, bien sûr, de respecter les schémas posologiques. L'azithromycine donne quelques effets indésirables digestifs, mais c'est peu de choses. Quant à la vitamine D et au zinc, et ce sont des substances naturelles qui sont très bien tolérées. Ce traitement est bien toléré.
Globalement, mais c'est important, en tout cas, de le dire, que ce soit sur les vaccins ou sur les médicaments, il y a des effets secondaires, de toute façon. Stéphane Gaillet.
De toute façon, tout médicament allopathique a des effets secondaires. C'est le prix à payer pour avoir une efficacité thérapeutique, ce qu'on appelle efficacité pharmacodynamique. Mais heureusement, avec bien des médicaments, les bénéfices sont très supérieurs aux effets indésirables.
Oui, et puis c'est important aussi d'être suivi, effectivement, et comme ça, justement, on peut avoir ce suivi et savoir sur les effets secondaires s'il faut continuer ou pas, s'il faut redoser ou pas. C'est comme dans beaucoup de maladies, bien sûr. Stéphane Gaillet, vous restez avec nous. Frédéric Bizard aussi, un professeur d'économie à l'ESCP Europe et président de l'Institut Santé. Je vous oublie pas. On vous retrouve dans un instant. On rappelle juste cette question. En quoi avez-vous le plus confiance pour lutter contre le Covid-19? Est-ce que ce sont les vaccins? Est-ce que ce sont les médicaments qui arrivent très prochainement? Ni l'un ni l'autre, ou les deux. Vous continuez de voter sur Twitter, sur Facebook, et puis vous nous appelez 0826-300-300. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 9h32, c'est le grand débat sur Sud Radio ce matin. Donc on continue de débattre autour de la question du jour. En quoi avez-vous le plus confiance pour lutter contre le Covid? Les vaccins, les médicaments, ni l'un ni l'autre ou les deux? Continuez de réagir sur notre compte Twitter ou nos réseaux sociaux. Et nos invités, Stéphane Gaillet, médecin infectiologue et hygiénique au CHU de Strasbourg, et Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Europe et président de l'Institut Santé.
Frédéric Bizard, la question qui se pose aussi, c'est vrai que bon, on a eu les vaccins en premier, d'abord, avant les médicaments. Du coup, on en a pas mal qui ont dit, vaccin, non, moi c'est non merci, ça arrive trop tôt, il faut plus de temps pour le mettre en place, le développer, le tester. Moi je veux des médicaments. Est-ce que si la situation avait été inverse, justement que les médicaments étaient arrivés en premier, on n'aurait pas eu finalement le même type de réaction? Quelle impression vous avez à ce niveau-là?
Alors, d'abord, par rapport à ce que disait votre auditeur, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, quelquefois, on ne sait plus trop quoi penser par rapport aux nouveaux médicaments, aux nouveaux vaccins qui arrivent lorsqu'on n'a pas, lorsqu'on ne connaît pas très bien ces choses-là. Bon, moi, je pense qu'il y a des points de consensus sur lesquels il faut construire. Ces médicaments sont un complément indispensable au vaccin ou à l'absence de vaccin, on l'a dit, pour avoir des stratégies qui soient les plus efficaces en fonction de l'état de santé, de l'âge des individus. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être mis. Maintenant, par rapport au risque, parce que vous avez une singularité dans cette pandémie, c'est la rapidité d'accès sur le marché. Normalement, le processus de sélection et d'autorisation de mise sur le marché, ça dure plusieurs années et c'est d'une rigueur scientifique extrêmement solide. Là, vous avez des autorités qui doivent faire avec nettement moins de données et qui doivent faire dans des temps qui ont été raccourcis d'un facteur 10 quasiment. Oui. Hein, on parle de quelques mois. Bon, donc on ne peut pas enlever le fait que vous avez moins de données et que donc ceux qui sont un peu sceptiques sur tout ça peuvent nourrir un discours relativement sceptique. Ce qui n'empêche que ce soit les vaccins ARN messager, la technologie ARN messager, ça fait 20 ans que des scientifiques travaillent dessus, ont développé déjà d'autres vaccins, notamment chez les animaux. On n'est pas... Les anticorps monoclonaux, c'est la même chose. Ça fait des années que cette technologie d'anticorps monoclonal, notamment contre le cancer, est utilisée. Donc, je pense qu'il faut quand même, à un moment, faire confiance à la sélection et à la rigueur scientifique de cette sélection-là. En revanche, je pense que, alors, plus votre arsenal thérapeutique est important et est complet, plus vous êtes fort médicalement, mais aussi, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé à juste titre, plus aussi vous pouvez négocier sur un plan économique avec les laboratoires, parce que vous n'êtes pas dans des situations monopolistiques. Bon, donc, moi, si vous voulez, alors après, les médicaments, si vous voulez, on sait que contre les virus, c'est quand même principalement les vaccins qui fonctionnent. On est malheureusement, c'est extrêmement compliqué, là le professeur serait plus à même que moi de développer pourquoi, mais vous avez assez peu de médicaments très efficaces contre les virus ou contre un certain nombre, autant vous avez des antibiotiques, l'antibiothérapie a révolutionné la bataille contre les bactéries, mais on sait bien que contre les virus, regardez le sida. Hein, vous arrivez à faire vivre les gens, mais vous n'arrivez pas à régler. On a réglé la situation contre l'hépatite C, par exemple. Bataille contre les virus à partir de médicaments est extrêmement compliquée.
Mais ce qui nourrit aussi, Frédéric Bizard, ces doutes, ces inquiétudes, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette crainte du poids que pourraient représenter les lobbies pharmaceutiques. Est-ce que, sur la décision politique, est-ce que cette influence, cette question des conflits d'intérêts, est-ce qu'elle est largement surestimée selon vous au niveau économique, ou est-ce qu'elle est bien réelle aussi, en partie en tout cas ?
Que l'industrie pharmaceutique soit une puissance économique colossale et utilise divers moyens pour optimiser sa valeur, c'est incontestable. Mais moi, je trouve qu'on oublie souvent que vous avez en général un seul acheteur, ce qu'on appelle une situation de monopsone en économie, et qui est assez rare. Mais cette situation, pour le coup, un peu monopolistique chez l'acheteur, et n'est pas suffisamment utilisée comme effet de levier, comme force de négociation par l'acheteur. Parce que si les États n'achètent pas ces médicaments, il n'y a aucun débouché possible, ou tout du moins très peu de débouchés possibles, s'il y avait simplement des achats individuels pour les laboratoires. Donc moi, je pense que les États doivent utiliser davantage leur pouvoir de négociation, mais aussi leur pouvoir de régulation. Je vous ai dit qu'il y avait un processus extrêmement réglementé sur la chose pour rééquilibrer la chose. Dernier point, je pense qu'il faut davantage de transparence dans les négociations qui sont mises.
Ça a été
beaucoup évoqué avec l'Union européenne.
Et on en avait parlé avec vous aussi il y a quelques semaines.
Moins vous avez de transparence, le manque de transparence nourrit tous les fantasmes. Et là, dans les négociations entre les États et les laboratoires, il y a une absence de démocratie sanitaire qui nourrit tous les fantasmes, qui sont quelquefois plus ou moins fondés, mais souvent infondés.
On va terminer très rapidement, je suis désolé Stéphane Gaillet, professeur, pour rebondir sur ce que disait justement à l'instant Frédéric Bizard. Il disait les antibiotiques, ça marche contre les bactéries, on sait faire. Par contre, c'est plus difficile a priori, à première vue, pour les virus au niveau des médicaments. C'est vrai, on est plus limité là-dessus sur les médicaments pour lutter contre les virus, globalement,
C'est tout à fait juste. D'une façon générale, la meilleure arme vis-à-vis des virus, ce sont les vaccins. La meilleure arme vis-à-vis des bactéries, ce sont les antibiotiques. Ça, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, avec ce SARS-CoV-2, et ça n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, on s'est aperçu que le SARS-CoV-2 agissait en tandem avec des bactéries qui sont endogènes et qui se réactivent à l'occasion de l'infection virale. Et il s'agit, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, du mycoplasme, d'où l'intérêt de prescrire des antibiotiques comme l'azithromycine, la clarithromycine, qui, de plus, ont une légère action antivirale. Alors, en effet, on n'a pas beaucoup d'antiviraux, mais ils se sont développés vis-à-vis des virus de l'herpès. Ce sont des gros virus à ADN pour lesquels on a plus d'antiviraux. Et puis, bien sûr, le virus du sida. Et j'en reviens à l'ivermectine, parce que son efficacité est prouvée maintenant. Même l'Institut Pasteur a reconnu son efficacité. Donc, c'est quelque chose de très important.
Effectivement, on aura l'occasion d'en débattre de nouveau, justement, de ce médicament, parce que c'est vrai que ça pose aussi pas mal de questions. Mais en tout cas, c'était important de vous avoir sur ce débat-là. Messieurs, merci beaucoup à Stéphane Gaillet, médecin, infectiologue, hygiénique au CHU de Strasbourg. Merci beaucoup également Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé. Merci pour ce débat d'une grande qualité en tout cas. Et puis on va clore les résultats de ce vote sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Marilyn.
Tout à fait. À la question « En quoi avez-vous le plus confiance pour lutter contre le Covid, les vaccins, les médicaments, ni l'un ni l'autre ou les deux ?» En tête, les médicaments. Vient ensuite « Ni l'un ni l'autre », 24%. Les deux, 11%, et les vaccins, 6%. Donc les médicaments, 59%. Avec une réaction de Laurent qui nous dit que ce soit vaccin ou médoc, les deux viennent du même endroit. Et croire qu'aujourd'hui, les lobbies pharmaceutiques, on en parlait, veulent nous guérir est pure fiction. On rapporte bien plus malades.
Il aura eu la réponse, en tout cas, avec nos invités, justement, qui en ont parlé, qui ont pris le temps de parler. Et c'est important d'en parler. Merci à vous deux, messieurs.
Merci.
Et à une prochaine fois, en tout cas, pour un nouveau débat. D'ici là, on calme un petit peu l'atmosphère, l'ambiance.
Côte d'Azur.
Une ambiance Côte d'Azur.
Exactement.
On est déjà en cuisine, il est 9h40 sur Sud Radio.